بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنة ليوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très chers bien-aimés, nous avons commencé la fois dernière à discuter sur le noble Al-Qur'an et nous avons signifié un certain nombre de choses parmi lesquelles le Qur'an contient tout. Le Qur'an parle de tout. Et le Qur'an est la parole d'Allah. Et c'est le plus grand miracle laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des pertinences que nous trouvons encore dans le Coran, ce sont ses awsaf, ses attributs, et ses asma, et ses noms, que lui ont donné celui-là même qui l'a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons pour cette circonstance très chère bien-aimée, mentionner certains attributs du noble Al-Coran, qui permettent aux musulmans de l'estimer à sa juste valeur. Dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle du mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, huda linnas, ubaynat min al-huda wal-futan. » Ces jours sont le mois de Ramadan durant lequel Allah fait descendre le Qur'an comme guide pour les hommes, preuve de la bonne direction et du discernement. Dans ce Qur'an est un guide. Et ce Coran est une preuve de la bonne direction. Et ce Coran constitue aussi le discernement. S'il n'y avait que ces trois attributs, ça aurait été largement suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, dans un autre verset du Coran, quand il parle des attributs du Coran, « Basairu linnas wa huda wa rahma » Ce Coran est une source de clairvoyance pour les gens, un guide et une miséricorde. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yasin wa al-Qur'an al-Hakim. Yani al-Hakim an ittasafa bil-Hikma. Par le Coran plein de sagesse. Ce Coran est sage dans sa compilation, sage dans l'agencement de ses mots, sage dans l'agencement de ses versets. Si bien que les ulama, les juridiques qui tablent beaucoup sur les sciences profondes du Coran, qu'on appelle ulum al-Qur'an, et vous remarquez bien qu'on ne parle pas de ilm al-Qur'an, on parle de ulum. Les sciences du Coran, elles sont tellement nombreuses, ils ont déduit qu'il y a dans le Coran ce qu'on appelle le munasaba, c'est-à-dire le fait que tel chapitre commence par tel verset, et tel chapitre se termine par tel verset, et tel chapitre vient avant ou après un tel autre chapitre, cela découle d'une sagesse immense de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez estimer à la juste valeur la sphère, on prend dans le Coran la parole d'Allah, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِلَّا تَلَاهَا Par le soleil et sa clarté et la lune qui le suit. Et la lune qui le suit. يعني, إِذَا تَلَاهَا إِذَا دِيَا بَعْدَهَا Comme on signifie des mufassirun, les érudits de l'exégèse du Coran. Subhan al-Malik, chacun parmi les musulmans, il recommande des hommes cet aperçu que ce n'est que lorsque le soleil s'est couché au premier jour du mois qu'on aperçoit le croissant de la lune. C'est pourquoi Allah dit par le soleil sa clarté et la lune qui la suit, c'est-à-dire qu'il vient après, mais pas le passage du soleil, car ce n'est que lorsque le soleil se couche qu'on aperçoit le croissant lunaire le premier jour du mois. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la même lancée, il fait allusion, n'est-ce pas, c'est-à-dire à cette perspicacité dans le noble Al-Qur'an, toujours dans l'agencement. فَلَنْظُرُ الْإِنْسَانِ إِلَى تَعَامِي Que l'on regarde de quoi il se nourrit. Que l'on regarde de quoi il se nourrit. Ces versets qui dressent les cheveux sur la tête de tout homme doué de science, doué d'intelligence, doué de clairvoyance. Aujourd'hui, la technologie est très très développée. Il y a un développement technologique éblouissant à tous les niveaux. Vous avez, n'est-ce pas, c'est-à-dire des satellites, vous avez des avions de chasse à une vitesse, c'est-à-dire plusieurs fois, qui vont à une vitesse extrême, au point de dépasser même. N'est-ce pas, c'est-à-dire la vitesse, n'est-ce pas, c'est-à-dire du son. Vous avez, n'est-ce pas, des fusées, vous avez, n'est-ce pas, des montres, vous avez des téléphones portables, quelqu'un qui discute, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec son frère, sans, malgré qu'on ne voit pas sur l'apparent, même si les cieux les séparent, même si les terres, les mers les séparent à travers le téléphone. L'homme est très impressionné par le développement scientifique, très très merveilleux, surtout le profane que nous sommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, regarde de quoi tu te nourris. Depuis que vous êtes né, avez-vous entendu un jour
que 1000 savants se sont isolés dans un laboratoire, 1000 scientifiques, pour mettre sur pied un grain de maïs, un grain de blé, un grain d'argile, un grain de riz, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, qu'est-ce la grandeur d'Allah, tourne-toi vers ce bout de pain qui est parfois boudé par beaucoup de jeunes, tourne-toi vers ce plat de couscous que t'a servi ta maman, tu verras qu'Allah est tout-puissant, car si l'homme a pu faire des avions, des navires, des chars, des bateaux, des fusées, des satellites, des téléphones, des ordinateurs, et n'importe quoi, l'homme ne peut pas faire un grain de riz, d'alliance ou l'insane, il a pas armé. Ça, c'est la hikmah qu'il y a dans le Coran, il a dit, Anna sababna al-ma asabba, c'est lui qui fait descendre de l'eau du sol, thumma shaqqaqna al-ard shaqqa, et Allah qui suit la terre lorsqu'on introduit la graine pour faire germer, comme vous l'avez connu. Non. Toujours dans la même lancée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours parmi les attributs du Coran, elle a dit, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahma. Elle a dit qu'il a fait descendre dans ce Coran ce qui est un remède, une miséricorde. Et Allah dans un autre verset dit, wal innahu la Qur'anul Karim, c'est un Coran généreux. Le mot Karim dans la langue arabe connaît celui qui apporte beaucoup de bien, c'est-à-dire beaucoup de bien. C'est le Karim, al-Karim, le généreux. Ce Coran effectivement est généreux. Dans la mesure où des millions de personnes ont transité des ténèbres, de la mécréance et de l'ignorance vers la lumière de la foi et du savoir, rien qu'à travers ce Coran. Jubair ibn Mut'im, qui est devenu un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était, comme bon nombre de personnes à son temps, infidèle, mécréant et associateur. Il adorait des idoles, Allah, il osait manat. Ils adoraient Hubal, ils adoraient les arbres, ils adoraient n'importe quoi, des arbres, des pierres, et n'importe quoi, et puis ils étaient infidèles parce qu'un grand avait les bienfaits de son Seigneur, c'est ça le couf. Il était mandaté par l'entourage d'aller négocier avec le messager d'Allah au sujet d'une histoire. Alors, il se charge volontaire, il arrive chez le messager d'Allah et aperçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de présider la prière de Maghrib. Et alors, comme vous savez, très chers bien-aimés, la prière dans l'islam, elle est djahriya, la surriya. La prière djahriya, c'est celle-là, lorsque l'imam lit, on entend la lecture. Et la prière surriya est celle qu'on n'entend pas la lecture. C'est vrai que la sunna vous dit quand même que, même quand la prière surriya, que l'imam, si ne serait-ce qu'un verset du Coran ou deux, que les fidèles peuvent quand même estimer, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce que... Mais ce sont des prières surriya, yani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de préciser la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, c'est comme la prière de l'aube, Al-Fajr. C'est comme la prière de Isha, ne serait-ce que les deux unités de Maghrib. Sont des unités, les deux premières unités de Maghrib sont comme les deux premières unités de Isha. On écoute la lecture, contrairement à la dernière unité de Maghrib ou à la deux dernières unités d'Isha et toutes les unités de Asr de Zohr. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la circonstance, a choisi le chapitre Al-Tur. Alors ce monsieur arrive, c'est un arabe, il comprend le discours. On n'y a pas dit embrasse l'islam ou n'embrasse pas l'islam, il est là, il attend que la prière finisse pour qu'il puisse aborder le messager d'Allah. Lorsque son oreille fait attention à ces phrases qu'on trouve mentionnées dans le nom de l'Al-Coran dans le chapitre Al-Tur, où Allah dit précisément Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yukinun. Les êtres humains ont-ils été créés à partir de rien, ou alors ce sont eux qui sont les créateurs, ou alors ils ont créé les cieux et la terre? Vraiment ces gens ne croient pas. Ils ont créé les cieux et la terre, vraiment ces gens ne croient pas. Subhanallah. Jubair ibn Mut'im dit kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler. Et c'était la toute première fois que la foi s'est imprimée dans mon cœur. Allah a bien dit, innahu la Qur'anul Karim. C'est un Coran généreux. Car beaucoup de gens ont transité de la mécréance à la foi, de l'ignorance à la science, de l'enfer au paradis, à travers ce Coran. Alors les frères générés disent dans notre verset du Coran, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَيُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Ce Coran n'est pas tel qu'il soit forgé par un autre en dehors d'Allah. C'est l'éditeur du livre, hein, avant lui, descendu de la part du Seigneur, et la confirmation de ce qui, c'est l'éditeur du livre et la confirmation de ce qu'il a précédé de la part du Seigneur de l'univers. La part du Seigneur de l'univers. Et c'est d'ailleurs pourquoi on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vraiment un souci lorsqu'il écoutait Jibril, l'ange Gabriel, qui lui lisait certains versets. Il avait l'habitude de ne même pas permettre à l'ange de tout lire dans le souci de vite capter pour ne pas oublier. C'est-à-dire, l'a dit, « La tuharribi, il est sain, la vie, ta'adam, la vie. Ne remis pas ta langue pour te précipiter de fixer ce Coran. « Inna alayna jam'a au Coran. » Allah dit sa fixation dans ton cœur et ta mémoire, incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, toujours dans les multiples attributs de ce Coran, Allah dit, « Ya ayyuha an-nas, kad ja'atkum mu'izatun min rabbikum, wa shifa'u lima fi s-sudur, wa huda wa rahma, ô homme, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, et un remède pour les maux du cœur, un guide et une miséricorde. » Vous savez très souvent, bien aimé, le Coran c'est une exhortation, c'est un serment. Et puis aussi c'est un remède pour les maux du cœur. Mais lorsque nous parlons des maux du cœur ici, nous ne sommes pas en train de parler des maux du cœur qui concernent les cardiologues. Loin s'en faut. Mais nous sommes en train de parler des maux du cœur qu'aucun être humain ne peut apporter une solution pertinente. L'homme qui souffre de la fièvre, on sait l'orienter. L'homme qui souffre d'un mal de dents, on sait l'orienter. L'homme qui souffre de l'asthme, de l'angine ou de la typhoïde ou je ne sais pas quoi, on sait l'orienter. Mais lorsque l'homme a le cœur pollué d'hypocrisie, pollué de jalousie, pollué de haine, pollué de rancune, pollué d'orgueil, pollué de mépris, pollué de dommages tellement nombreux que ceux qui causent la ruine de ceux qui portent ce genre de cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'effectivement, il a fait de son Coran un remède pour les maux du cœur. De telle sorte que quiconque se traite avec son Coran ne connaîtra pas les maux du cœur. Alors, inshallah subhanahu wa ta'ala, revenons un peu sur la jalousie, qui est le tout premier péché qui a été commis sur terre, comme le signifie les érudits. Parce que Adam alayhi salam, le diable a refusé de se prosterner devant lui par simple jalousie. Et on rapporte aussi que le premier crime de ce monde a découlé de la jalousie. Je voudrais qu'ensemble, très chers bien-aimés, qu'on essaie de revenir ensemble sur un récit prophétique qui nous permettra de comprendre qu'un bon croyant ne peut pas être jaloux. Pas seulement parce que la jalousie, elle cause de sa ruine, avec beaucoup de récits. Donc ça l'a dit que les bonnes œuvres d'un jaloux se dissipent rien que par sa jalousie. Bal dans le Coran, là, les mains à côté du magicien. Parce que lorsque quelqu'un est pollué par la jalousie, il peut commettre des crimes. Il peut commettre des dommages, il peut tuer, il peut manger des mensonges, il peut faire. Mais sauf qu'on n'a jamais vu dans la société un homme injuste qui a l'air de subir une injustice comme le jaloux. Parce que le jaloux, en réalité, c'est celui qui ne veut pas voir les bienfaits d'Allah sur vous. Or, sa jalousie n'empêche pas Allah de vous donner ce qu'il a prévu pour vous. Or, chaque fois qu'Allah vous améliore, il souffre davantage. Allah vous améliore, il souffre davantage. Lui ne veut pas. Et sa jalousie n'empêche pas Allah de vous donner. Mais si quelqu'un est rentré dans ce Coran, il ne connaîtra jamais la jalousie. Permettez-moi de vous, de méditer avec vous. Et un récit très important, recueilli par les spécialistes de la question. Beaucoup de grands savants ont recueilli ce récit. Parmi lesquels, Imam Ahmad ben Hanbal dans son Musnad, Imam Abu Dawud, parmi les récits du compagnon général Ubadat ibn Samit. Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, est un compagnon général. Alors son fils dit, « Dakhaltu ala al-Ubadata wa huwa marid. » Je suis entré chez mon père Ubadah qui était vraiment malade et j'avais la ferme conviction qu'il va mourir. C'est vrai, la mort a des signes, même si ce n'est pas tout le monde qui les maîtrise, mais certaines personnes savent voir que celui-là est en train de s'en aller. Sinon, le Prophète Allah s'en dit, lakinu mutakum, la ila ila Allah. Alors, il dit donc à son père, yabta, oh sini wa shtahidouli, oh mon père, donne mon conseil et fais un effort pour moi. Si tu ne vas pas t'en aller dans la miséricorde de ton Seigneur, tu me laisses sans me donner un conseil. Alors, Obada, dans la souffrance, il a dit à son entourage, ajlisouni, faites-moi asseoir. Falamma ajlisou, dès qu'on le fait asseoir, il dit à son fils, yabouniya, inna kalan tatma al iman. وَلَمْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةَ الْعِلْمَ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Oh mon fils, tu ne vas jamais goûter à la saveur de la foi. Et tu ne vas pas connaître Allah tel qu'Allah mérite d'être connu. حَتَّى تُؤْنِنَ بِالْقَدَرِ غَيْرِ وَشَبْرِهِ. Jusqu'à ce que tu cours destin dans son bien son mal. Tu ne vas pas goûter à la saveur de la foi. Et tu ne vas pas connaître Allah comme cela se doit. Jusqu'à ce que tu cours destin dans son bien son mal. وَلِدِي وَكَيْفَ لِنْ أَعْلَمْ مَا هُوَ. Oh mon père, comment moi je saurais le bien du destin, le mal du destin? Comment le saurais-je, moi le pauvre? Son père lui dit, Ta'alam, annama akhta'aka, lam yakun yusibaka wa ma sabaka lam yakun yakhta'aka. Sache, oh mon fils, que le mal qui t'a évité ne pouvait pas te toucher, et que le mal qui t'a touché ne pouvait pas t'éviter. Et puis, comme cela sont les salafs salés, ils n'ont pas une méthode légère dans la pédagogie. Alors il veut que ce sens soit fortement inculqué dans la mémoire de son fils pour qu'il n'oublie plus jamais, en faisant comprendre à son fils que cela ne vient pas de lui. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-kalam fa qala lahu uktub fajra fi tilka as-sa'a bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. J'ai entendu le messager d'Allah dire, lorsqu'Allah crée la plume pour la première fois, il a ordonné la plume d'écrire tout ce qui est dès l'instant qui n'est plus la plume et qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Tout est concis. Cette mécréance au destin qui a ruiné beaucoup de gens qui étaient même des bons croyants à cause des petites considérations mondaines qui se sont avérées qu'ils ne croient pas au destin comme cela se doit. Mal à ça. Il dit, Abunay, Nita, voilà, c'est le zèle, il va kunta min al-imna. Il dit, oh mon fils, si la mort se trouve et tu n'as pas ce concept de foi que le mal qui t'a évité ne pouvait pas te toucher, et que le mal qui t'a touché ne pouvait pas t'éviter, ta place sera le feu de l'enfer. Inni sami'tu hadha li Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu ça du messager d'Allah. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Inna Allah kataba maqadir al-khala'ik, kabla yakhluq as-samawat wal-ard bi 50 alfa sana wa kana arshal al-ma. Il 50 000 ans avant de que laisser la terre, Allah confié et destin de toute sa créature. Ta'allahu wa taqaddus. Et dans le Coran, Allah s'abattit une subatine sur l'ordre, Allah s'y enfouit, comme il a fait kitab, une kabla nabraha. Comme Allah ne touche ni votre personne, ni la terre, sauf s'il est confié dans le livre avant même d'être créé. Likelata sawala ma fatakum wa la tafraudu atakum. Afin de ne jamais vous tourmenter pour ce qui vous échappait, et de ne jamais s'exulter pour ce qu'Allah vous a donné. Alors c'est ça un bon croyant. Quand il a, il remercie son Seigneur, il ne s'exulte pas de ce qu'il a. Et quand il n'a pas, il ne se tourmente pas. Car il sait que son risque est maktoub, sa subsistance est consignée par Allah. Comme disait le Salaf Saleh dans quatre mots, avec une de ses éloquences, Allim Allahu shay'an faqtabahu, Allah sait une chose et la consigne. Comme Allah sait toutes choses est consignée. ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين